Soyez les bienvenus. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé, le talk show radio en podcast maintenant sur onécoutelatélé.com. Chut, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse. Des biscuits fabriqués à Blanzac en Haute-Vienne avec un savoir-faire artisanal et un goût authentique. Découvrez toutes nos recettes en grande surface, Les Caprices de Thérèse. Dégustez l'excellence. Chut, on écoute la télé avec votre agence de voyage Les Ailes du Partage. Amandine, votre interlocutrice privilégiée, vous proposera voyage à la carte et sur mesure, adapté à votre budget dans le monde entier. Passez du rêve à la réalité en réservant votre prochain voyage au 06 72 32 47 67 et sur voyage-solidaire.com.
Succomber au plaisir d'un dessert Marie Morin en écoutant Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez la fameuse mousse au chocolat à l'ancienne et vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente près de chez vous sur marie-morin.fr.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Ravi de vous retrouver sur notre site onécoutelatélé.com pour Chut, on écoute la télé, le podcast. Tous les lundis à 20h, eh bien, nous vous donnons rendez-vous justement pour ce podcast avec tous nos invités où pendant une heure, nous allons vous accompagner pour passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, vous savez pas? Eh bien, on va faire tout de suite le sommaire. Eh bien, oui, c'est parti.
Chut, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Allez, au menu de ce nouveau numéro de Chut, on écoute la télé. Deux coups de cœur ciné cette semaine. Le premier consacré à Mikado qui sortira donc mercredi dans les salles. Baya Kasmi sera avec nous dans une poignée de secondes accompagnée de Félix Moati et Vima Laponce qui seront nos invités exceptionnels. Nos coups de cœur télé consacrés à Cimetière Indien qui débarque ce soir sur Canal+. À cette occasion, le réalisateur Farid Bentoumi accompagné de Mouna Soualem et Olivier Bourdin seront avec nous pour en parler. On va parler également dans nos coups de cœur télé de Flashback pour cette deuxième semaine avec les deux réalisateurs de votre série de TF1, Stéphane Cafiero et Vincent Jamin, ainsi que Vanessa David et Julien Pestel qui viendront nous parler de leur rôle. Et puis en fin d'émission, deuxième coup de cœur ciné consacré à D'où Jésus qui sort également mercredi dans les salles. Frédéric Kering et Marie Louberry seront avec nous pour en parler. Vous l'avez compris, eh bien on va encore pas s'ennuyer aujourd'hui dans Chut, on écoute la télé. On démarre tout de suite avec notre spécial Mikado.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur ciné consacré à Mikado qui sort mercredi dans les salles. On est très heureux de recevoir toute une partie de l'équipe du film aujourd'hui. Baya Kasmi, la réalisatrice. Bonjour Baya.
Bonjour.
Je suis très heureux de te retrouver, surtout que t'es pas venue seule dans un instant. Félix Moati et Vima Laponce vont nous rejoindre également. Baya, je me souviens que tu m'as parlé de ce projet autour d'un repas dans un festival à Agde. Il y a maintenant quelques années, t'étais en train de l'écrire avec Michel. Et ça y est, il a pris vie. On le voit, il va appartenir au public maintenant dans deux jours, où tu y racontes l'histoire un peu d'une famille qui vit sur la route, qui recèle peut-être bien des secrets, qui va faire une rencontre qui va un peu bouleverser l'existence et l'équilibre assez sommaire, assez fragile de cette famille qui en apparence a l'air quand même très heureuse et qui est incarnée par Mickaël et Laetitia. Franchement, le casting est dingue. Où est venue l'idée ?
Alors l'idée, j'avais envie de faire un film sur l'enfance parce que c'est une période qui nous marque tous. Comment on s'évade de sa propre enfance, comment on se construit. Et je voulais aussi raconter d'une façon un peu lumineuse la difficulté à s'intégrer d'une famille. Les parents, en fait, ont une vie assez cabossée et ils ont peur pour leurs enfants. Ils sont recroquevillés sur eux, ils ne les mettent pas à l'école, ils vivent avec eux pour les rendre heureux 24 heures sur 24. Et en fait, ces enfants-là vont avoir envie de découvrir le monde, de vivre une vie normale.
C'est la rencontre du personnage incarné par Ramzy.
Exactement. Et Ramzy, qui est professeur de français, qui est veuf et qui a une fille de l'âge du couple Mikado-Laetitia, ben en fait, il va leur ouvrir des perspectives. Le film, c'est le temps un peu d'une parenthèse enchantée, d'un temps qu'ils vont passer dans cette maison. Tout d'un coup, se lier avec ce père veuf et sa fille. C'est à la fois lumineux, mais c'est en même temps la fin d'un monde pour eux, parce qu'ils sont quand même en cavale. On va comprendre qui cache des choses. Ouais, c'est le premier film que j'écris qui n'est pas une comédie. Et quand on s'était rencontrés, je me souviens très bien qu'on s'en a été parlé. Moi, j'écrivais avec Michel Youssef Salem. Et ce film-là, en fait, je l'ai écrit avec Magali Richard Serrano, puis avec Olivier Adam. Et à l'époque, je pense que j'étais avec Olivier. C'est un film qui a été très long à écrire parce qu'on a quasiment écrit la biographie de ces personnages. On a écrit leur vie, on a écrit des scènes et des scènes et des scènes pour ensuite tout enlever et que ça reste dans le film. Et je pense que c'est un film lumineux, mais qui, je crois, qu'il fait pleurer.
Il y a beaucoup de moments, évidemment, de tendresse infinie. Et notamment après Youssef Salem, Ramzy nous offre une partition d'une tendresse folle. On n'a pas l'habitude de le voir justement dans ce registre et c'est un véritable plaisir de le voir aller vers là.
Ouais, Ramzy, toujours, il est toujours exceptionnel. Moi, je trouve qu'il apporte tellement de tendresse à ses personnages. Et c'est vrai que c'est un petit peu il leur ouvre une porte en fait sur les gens normaux, parce que c'est un film aussi qui parle de la marge. C'est des gens qui se coupent, qui se sentent pas autorisés à faire partie du monde normal, qui se sentent un peu à côté, qui ont pas vraiment les codes. Et Ramzy, justement, il a cette façon de les accueillir, de les regarder avec tellement de bienveillance, de s'intéresser vraiment à eux, de s'inquiéter aussi pour leurs enfants.
Il a de graves fêlures aussi, d'ailleurs, ce personnage de Ramzy.
Oui, c'est ça. Il a beau être un gars normal, qui a une belle maison, et on comprend qu'il souffre beaucoup. Il a des difficultés de communication avec sa fille. Il a perdu sa femme, et oui, c'est vraiment un personnage en deuil, mais qui essaye de tenir, quoi. Voilà.
Alors, moi, j'ai trouvé qu'il y avait un personnage d'une infinie tendresse aussi. C'est le personnage de Nuage. Elle est incroyable, cette comédienne. Elle fait passer une émotion, mais tellement intense. La ressemblance presque avec Vimala, on sent qu'elles font presque une. On dirait vraiment que c'est la mère et la fille. Ouais. Il y a une ressemblance en plus entre les deux, oui, qui est frappante à l'écran.
Oui. Oui, c'est très fort. Elle s'appelle Patience Muschenbach. C'est une grande actrice. Elle nous a bluffé. On était tous fascinés par sa présence, par son engagement aussi, parce que c'est vraiment une comédienne qui est complètement investie. Et c'est vrai qu'il y a des points communs entre Vimala. Après, c'est pas étonnant. Moi, c'est marrant quand on a des coups de cœur pour des comédiens. Et c'était très fort entre elles. Et avec Félix aussi, d'ailleurs, qui joue son papa, Félix Moati. Patience Muschenbach, écoute, je pense que c'est une grande actrice, qu'on va beaucoup entendre parler d'elle. Et c'est vrai que le personnage de Nuage est tout en fragilité et en force en même temps. Elle a l'impression qu'elle n'existe pas, qu'elle est invisible, qu'elle peut disparaître.
Elle se cherche un peu comme toutes les ados de son âge finalement, alors qu'elle est dans un vase clos en plus.
Exactement, et elle est fascinée par la fille de Ramzy, de Vincent, parce que c'est une fille justement qui a tout ce qu'elle n'a pas et voilà, qui lui ouvre un nouveau monde.
Et moi, l'amitié passionnelle qu'elle noue toutes les deux d'ailleurs est très beau.
Ouais, c'est très beau et ça va l'aider à apprendre, parce que c'est l'histoire d'une émancipation. Donc oui, ça va l'aider à voler de ses propres ailes, à prendre des décisions. Je repensais au film de ma jeunesse, à l'effronter, à bout de course, Running on Empty, à Un monde parfait, à des films qui m'ont bouleversée, Gilbert Grape aussi, qui m'ont bouleversée, qui sont des films très simples, avec peu de personnages et d'adolescents qui se trouvent et qui se libèrent de leur famille. C'était l'ambition. Et grâce à Patience et à Saul Benchetrit aussi, qui joue la fille de Vincent, jouée par Ramzy, je crois qu'il y a un bel équilibre.
Beau, je crois que c'est le mot qui convient parfaitement à ce film. Vous allez certainement passer un très très bon moment. J'espère qu'il va appartenir au public. Là, ça y est, tu vas le libérer en quelque sorte, Maya.
Oui, c'est très...
Non, sans émotion.
Oui, c'est très émouvant. Voilà, parce que on sait jamais. Moi, je suis habituée à faire. J'ai réalisé deux films qui étaient des comédies. J'allais dans les salles et j'entendais les rires et je me disais, ça marche, parce que un rire, ça trompe pas. Là, les avant-premières que j'ai faites, c'est plutôt des larmes. Mais il y a aussi pas mal de légèreté dans le film.
Des larmes d'émotion, c'est pas des larmes de tristesse. C'est vraiment des larmes d'émotion, parce que les comédiens offrent tellement une partition émotionnellement forte que nous, on le ressent, spectateurs, évidemment.
Complètement, parce que c'est pas triste. C'est oui, quoi, tu as raison, c'est de l'émotion. Oui, je suis assez émue, parce que c'est un film que j'ai cru ne jamais pouvoir faire, et j'espère que ça va toucher les gens. Ouais.
Ça aurait été dommage. Ça s'appelle Mikado. Ça sort mercredi au cinéma. On va accueillir Vimala Ponce et Félix Moati dans quelques instants, qu'on va retrouver un an après La Promesse Verte, qu'on est ravis en tout cas de retrouver. On va écouter la bande-annonce. Merci Baya d'avoir été avec nous. Et dans un instant, la suite de l'équipe arrive. À tout de suite.
Non, je n'oublierai jamais la baie de Rio.
C'est notre maison, ce camion.
La couleur du ciel.
La pièce, elle coûte un bras. Le délai de livraison, c'est 2 semaines.
En attendant la pièce, on peut rester dans votre jardin. Ils vont rester longtemps, tes potes, avec le camion, là?
Ils ont pas la vie facile, ça tu peux le comprendre, quand même.
Officiellement, je suis jamais née.
passe quoi si quelqu'un déclare pas son gosse? Tu vois pas que les momies se sentent bien ici?
T'as pas envie que ça?
Ah si, mais pas avec des choses qu'on peut pas se permettre.
C'est difficile le collège.
Et tu veux y aller?
Il est très gentil et très intelligent, je trouve.
Il est prof, quoi. Tu crois que je vois pas ce que t'es en train de faire?
Je vous aime bien, c'est tout.
Tellement que tu veux me voler ma fille.
J'ai assez de problèmes comme ça, moi, dans ma vie, pour que vous veniez m'en rajouter.
Voilà pour la bande-annonce. Mikado, ça sort donc mercredi dans les salles. Vima Laponce et Félix Moati nous ont rejoints. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Alors, on va parler évidemment de Mickaël et Laetitia. Ce couple, on a un peu planté le décor quand même avec Baya. La première chose que j'ai dit à Baya, c'est qu'il y a un personnage qui m'a offert, moi, une émotion très très forte, Vimala. Et je crois que vous avez vraiment noué un lien particulier, ces personnages de nuages. Et il y a quelque chose entre vous qui transpire tellement mère-fille, que la ressemblance en plus, enfin nous, elle nous a amené au spectateur une ressemblance tellement frappante, c'était dingue en tout cas.
Bah, patience, moi ça a été une découverte, quand elle est arrivée sur le plateau, c'était très très saisissant en fait de voir quelqu'un qui rentrait autant dans chaque situation et de jouer avec elle en fait c'était comme de ne pas jouer, c'était juste de répondre à l'émotion où elle se situait à ce moment-là. En fait c'était très impressionnant de l'avoir travaillé et œuvré et aussi d'aller parfois même toucher des choses qui étaient presque un peu dangereuses en fait pour elle.
Qu'est-ce qui vous a plu à tous les deux dans le projet de Baya, Félix?
Bah c'est un peu, ça paraît un peu convenu de dire ça, mais je crois que j'ai tout aimé en fait, à la fois le script d'abord et avant tout, Baya en elle-même, les films précédents de Baya, mes partenaires de jeu Vimala, Ramzi et la jeune Patience qui en effet en fait malgré son jeune âge avait une maturité exceptionnelle, douée d'une intelligence vraiment assez stupéfiante et notamment d'une intelligence émotionnelle très très à vif. Elle était en connexion totale avec son personnage, si bien qu'il y a carrément une scène où moi, la voyant jouer, elle m'a fissuré, quoi. J'ai pas pu m'empêcher de pleurer.
Donc, nous aussi.
Ouais, non, mais elle a vraiment, moi, c'est vraiment une actrice que je pense qu'il y a l'avenir. Je lui souhaite en tout cas l'avenir devant elle.
Imala, qu'est-ce qui t'a plu, toi?
Et aussi Saul. Saul qui pour moi est vraiment en plus c'était très beau d'avoir pris deux actrices qui ont à peu près le même âge et qui ont des façons d'aborder les choses complètement différentes et puis aussi le petit garçon Louis. Et moi, dans les scènes en fait de groupe qu'on avait, qui étaient des scènes parfois hyper tendues émotionnellement, il apportait des propositions physiques ou des choses où il venait en fait t'offrir tout ce que toi t'avais pas imaginé. Et ça, c'était vraiment très 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 percutant.
On va découvrir que cette famille, en apparence hyper heureuse sur les routes, qui cache beaucoup de secrets finalement, cache beaucoup de fêlures, surtout le personnage de Mickaël, alias Mikado, mais il y a beaucoup de choses en tout cas qui vont transpirer au fur et à mesure de cette histoire et qu'on va découvrir cette histoire peut-être enfantine aussi, du personnage de Mikado qui a connu une enfance quand même compliquée.
Ah bah c'est un film là-dessus hein, sur l'enfance blessée quoi donc voilà et l'enfance qu'ensuite on laisse partir qu'on abandonne et en effet Mikado ayant eu l'enfance qu'il a eue et Laetitia aussi ayant eu l'enfance qu'elle a eue on est des parents extrêmement plus qu'aimants quoi, très protecteurs et on veut pas laisser partir nos enfants et c'est tout l'enjeu du film.
Et puis et ben après, évidemment, il va y avoir la rencontre avec le personnage de Ramzi, puisque vous allez tomber en panne et lui va vous aider et vous allez, alors sauf le personnage de Mikado, prendre peu à peu goût à une autre vie aussi, à quelque chose d'autre. Ça va bouleverser un peu l'équilibre quand même de cette famille, l'équilibre assez fragile finalement, Vimala.
Ouais, moi c'est la troisième fois que je joue avec Ramzi dans le film de Baya. La première fois c'était mon papa, la deuxième fois c'était mon amant, et là c'est mon voisin. Mon voisin intellectuel.
Ah, ça change de Youssef Salem, là.
Ouais. Et c'est vrai que la capacité de Ramzi, tout d'un coup, à aborder ce rôle et à être dans un endroit très ténu, en fait, et très délicat, moi, m'a complètement retourné. Et ça a été. Et je pense qu'effectivement, ce qu'il apporte, et c'est ça que j'aime dans le film, c'est que rien n'est jamais acquis, jamais. Et que, en fait, tout ce qu'ils essayent d'installer, en fait, c'est toujours des endroits provisoires toujours, que ce soit le van, que ce soit l'idée de l'éducation qu'ils essayent d'instaurer, qui va contre l'État, qui va contre le système. Rien, en fait, il n'y a pas de solution, et c'est dans il n'y a pas de solution qu'on trouve une solution.
Est-ce qu'il y a une scène que vous avez préférée tous les deux, une scène que vous redoutiez peut-être, ou une scène plus difficile que d'autres?
J'arrive jamais à répondre à cette question qui est tout à fait légitime et normale, mais j'arrive jamais à y répondre parce que moi je considère toujours un tournage dans son ensemble, dans sa globalité. J'ai du mal à en faire ressortir des scènes, des moments. Mais je me souviens beaucoup de la lumière de ce mois d'août dans cette région. On était à côté d'Aix-en-Provence, puis vers Toulon. Je me souviens d'une ambiance globale en fait avec l'équipe, avec Baya, avec Vimala, Ramzi et les enfants. Voilà, c'est plutôt une humeur générale du film, très lumineuse.
C'est bien ça déjà.
Ouais, voilà, non mais c'est vraiment ça.
Imala.
Ouais, moi j'ai la sensation qu'il y en a eu plein, des scènes que je redoutais et qui m'ont été pas si faciles que ça. Mais notamment là, toutes les scènes où en fait on est rajeuni. Et c'était super intéressant parce que je me suis rendu compte aussi que comme c'est les premières fois où il y a un rajeunissement qui est quand même assez conséquent, qu'on nous demande, ça m'a permis de me rendre compte ce que j'avais perdu, ce que j'avais laissé. Et aussi comment la vie fait que tu construis une espèce de carapace, d'armure pour résister à la vie, qui parfois, cette carapace, elle te rend malheureux, alors que c'est celle qui te protège de la vie. Du coup, c'était super intéressant, cette plongée en flashback de soi-même.
Mikado, c'est mercredi au cinéma. Allez le voir, vous avez passé, je vous assure, un très très bon moment avec cette belle famille, en tout cas, que vous formez. Merci beaucoup à tous les deux. À bientôt.
À bientôt.
À bientôt, merci.
Et on va se quitter avec un extrait Mikado, c'est mercredi au cinéma.
Qu'est-ce que tu fais là ? Mais je suis inscrite.
Tu sais ce qui va se passer si tu continues comme ça ? Tu vas finir dans un foyer.
Tu veux pas l'empêcher de vivre sa vie ?
Je veux le protéger, c'est tout.
Je veux pas vivre comme ça, c'est dégueulasse !
Juste qu'elle comprenne d'où on vient.
Mais moi j'ai pas du tout envie qu'elle sache d'où je viens.
Moi mes enfants, je suis tellement fier de les avoir. D'avoir ma famille à moi.
Allez, ne bougez pas dans un instant. On parle de cimetière indien, on parle de flashback et notre deuxième coup de cœur ciné tout à l'heure consacré à D'où Jésus.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé, revient dans un instant. A tout de suite. Le rendez-vous des stars, c'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio.
J'étais ton cœur, j'étais ton amour. Ma tristesse, j'en ai fait le tour. Moi qui voulais être le soleil qui tous les matins te réveille. Je serai l'orage à ta fenêtre, à crier pour te faire perdre la tête. Je sécherai mes larmes, je soulèverai les montagnes. Je serai unforgettable, plus jamais blessé, plus jamais laissé, même loin. Toi, je crierai ces mots. On s'est aimé, mais moi je t'oublierai. Je serai cette femme dans la rue que tu crois avoir reconnue. Je serai les nuages dans le ciel. Je serai le tonnerre dans ton sommeil. Je serai dans tes rêves et dans ta mémoire. Même dans le noir, je serai là pour laisser brûler les flammes. Soulever les montagnes. Je serai unforgettable, plus jamais blessé, plus jamais laissé, même loin de toi. Je crierai ces mots. On s'est aimé, mais moi je t'oublierai.
Écoute la télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook Chut, on écoute la télé. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, notre coup de cœur télé est consacré à Cimetière Indien qui débarque ce soir sur Canal+, nouvelle création originale. Et on a un des deux réalisateurs qui est avec nous, Farid Bentoumi. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On va découvrir cette nouvelle création originale qui va nous faire voyager un peu dans le temps, sur 25 ans, à travers des histoires de Jean et de Lydia, dont on va découvrir ce parcours. Farid, qu'est-ce qu'on peut dire déjà un peu sur cette série, sur cette création?
C'est une série en effet qui voyage sur 25-30 ans et qui parle d'une région qu'on voit peu, qui est l'arrière-pays marseillais, Vitrolles, Marignane et la Provence. Tout le pourtour de l'étang de Berre, le pourtour industriel, ça parle de désindustrialisation. Ça parle de politique, ça parle de l'héritage d'une époque violente, qui est l'époque de la guerre d'Algérie, et de comment cette violence qui a été enterrée, qui a été passée sous silence, va petit à petit créer un polar qui est basé sur des meurtres très violents sur ces deux époques-là, en 1995 et en 2023. Et on découvre, les enquêteurs découvrent que ces meurtres sont liés, et tout l'enjeu de la série, ces 8 épisodes, ça va être de savoir pourquoi ils sont liés, comment ils sont liés, quels sont les enjeux politiques derrière, quelles sont les relations entre les personnages. Et c'est une série qu'il faut vraiment regarder de l'épisode 1 au bout de l'épisode 8 pour vraiment la comprendre, pour vraiment comprendre toute l'ampleur du sujet qui est traité, à la fois historique et à la fois sur ce territoire-là qu'on voit peu et qui est un territoire qui a été délaissé, en fait, pendant 30 ans, pendant ces 30 années-là.
Alors, on s'en va sur Péranne, donc dans l'arrière-pays marseillais. On va y suivre Lydia en 95, qui est une jeune recrue de l'antiterrorisme. Et donc, on va la retrouver 25 ans plus tard, où un meurtre un peu similaire est commis. Et donc, elle va essayer de retrouver Jean, avec qui elle a enquêté 25 ans auparavant sur le scalp d'un imam. Effectivement, il y a une scène très choc hein, dès le départ, vous allez voir. Mais justement, qui va nous faire comprendre au fur et à mesure, il y a un travail très soigné au niveau de l'image, au niveau de la bande-son aussi, qui nous permet vraiment de bien se situer dans les époques entre les années 90 et de nos jours.
Oui, tout à fait. L'idée, c'était vraiment d'avoir des transitions entre les deux époques, enfin, que les deux époques se répondent en permanence. C'est-à-dire qu'ils découvrent quelque chose en 95 qui va les aider en 2023, ils découvrent quelque chose en 2023 qui va nous rappeler quelque chose de 95 et de faire jouer comme ça l'esprit du spectateur entre les deux époques en permanence. Et donc la musique aide beaucoup. La musique a été composée par Olivier Marguerite, qui est un compositeur vraiment génial, nous fait vraiment voyager dans ces deux époques-là. Il y a des tout petits changements à l'image, des tout petits changements à la musique, des changements, bien sûr, chez les personnages qui ont vieilli 30 ans. Donc ils sont maquillés avec des masques, y compris des heures tous les matins à faire.
Et on va en parler avec eux dans un instant justement, et notamment avec Mouna, oui.
Et donc on voyage vraiment entre ces deux époques-là et on joue avec l'esprit du spectateur qui va devoir lui reconstituer l'histoire. C'est pour ça que je dis vraiment que l'histoire se construit sur les 8 épisodes. Par exemple, l'épisode 7, pour ne rien divulguer, il se passe en 2001. D'un seul coup, c'est une troisième époque qui intervient et qui va nous faire comprendre les deux autres époques. Et donc c'est vraiment un jeu, une énigme pour le spectateur qui a été absolument génial à réaliser, qui a été génial à écrire et dans lequel les comédiens se sont vraiment plongés. Il faut voir qu'on a des comédiens qui sont vraiment très engagés, qui ont des personnages, qui ont dû construire des personnages sur 30 ans, c'est-à-dire se dire comment j'étais en 95, comment je suis en 2023 et en permanence travailler eux, leurs personnages, pour transmettre quelque chose aux spectateurs, transmettre des émotions. Jean, par exemple, le personnage de Jean, qui est joué par Olivier Rabourdin, il est très silencieux, il est très taiseux, il porte cette violence en lui, et il nous le fait comprendre petit à petit, qu'est-ce qui a fait naître cette violence en lui. Lydia, au contraire, c'est quelqu'un qui est joué par Mouna Soualem, c'est un personnage qui se donne énormément dans l'antiterrorisme, qui devient à la fin un préfète, et on la voit tout le temps entre ces deux époques se dire qu'est-ce que j'ai fait dans ma jeunesse? Pourquoi j'ai été engagé en tant que flic dans ma jeunesse? C'est vraiment des questions existentielles qu'on voit peu dans les séries policières en fait. On n'est pas sur une trame très classique du meurtrier qu'on poursuit et tout ça, on est vraiment dans l'intériorité des personnages.
Justement, au fil des épisodes, on va décortiquer tout ça. Alors, moi pour être clair, j'ai vu que les deux premiers, pour l'instant, puisque j'ai voulu me laisser un peu là aussi le suspense au fur et à mesure, on voit beaucoup... pour le coup le personnage de Lydia qui va donc à la recherche de Jean qui lui va avoir disparu. Donc on va voir effectivement le personnage d'Olivier, ce qui s'est passé, à quel moment il intervient, mais vous allez le voir évidemment parce qu'il est au casting, donc on va le découvrir et on va découvrir ce qui se cache, ce qui se passe aussi au fur et à mesure de cette histoire. Vous avez travaillé à la réalisation à quatre mains tous les deux, justement avec Stéphane de Moustier qui a réalisé les quatre premiers, dont les deux premiers qu'on verra ce soir, et vous Farid des épisodes 5 à 8. Comment s'est passée la passation entre vous et comment ça se passe quand on réalise une série comme ça, peut-être aussi complexe, avec des voyages dans le temps, à deux réalisateurs?
Je dirais que le maître mot, ça a été la confiance. La confiance de la part de la productrice, déjà, de faire appel à nous, à Stéphane de Moustier et à moi. La confiance envers les comédiens, la confiance envers l'auteur. On s'est tous fait confiance dans chacun de nos métiers respectifs. Et quand je suis arrivé pour faire 5, 6, 7, 8, Stéphane m'a vraiment laissé les clés du camion, comme on dit. C'est-à-dire que lui, il avait créé, avec beaucoup de précision, comme il sait le faire, une certaine image pour 1995, une certaine image pour 2023, avec des caméras différentes, avec des optiques différentes, avec une façon de filmer différente pour les deux époques. Donc il y a une différence très délicate entre les deux époques, mais qui se voit quand même à l'image. Et il avait déjà créé les personnages, les deux époques des personnages. Donc moi, j'ai vraiment hérité de cette histoire-là. Et il se trouve que quand je suis arrivé, l'épisode 8 n'était pas tout à fait écrit. Et Stéphane avait commencé à tourner ses images. Et donc du coup, la série s'est construite autour des images déjà tournées, autour des personnages déjà tournés, et ça a été hyper riche pour nous, parce que du coup on a pu écrire en tournant, le montage se faisait en permanence, et donc il y avait comme un mouvement permanent dans la création qui nous a permis d'aller encore plus loin dans les personnages. On a, grâce à la production et à Canal+, on a pu rajouter des jours de tournage à la fin du tournage pour pouvoir justement rajouter des petites scènes comme ça qui n'existaient pas au scénario au départ et qui permettaient de rajouter les dernières pièces au puzzle. Et tout ça avec la confiance de Stéphane, en discussion avec lui, on était vraiment en lien permanent pour tous ensemble créer la série la plus profonde possible, la plus finie possible. Ça a vraiment été un bonheur de travailler ensemble comme ça à quatre mains.
Dernière question, quand on va justement arriver dans 3 semaines au dénouement de toute cette histoire, est-ce que c'est bouclé ou est-ce que ça peut déboucher sur une saison 2?
Alors c'est bouclé. Ça peut déboucher sur une saison 2.
Bon bah voilà, comme ça on a la réponse effectivement, mais en tout cas on va avoir déjà toutes les réponses aux questions qu'on se pose dans 3 semaines au final.
Ouais. Je souhaite beaucoup de plaisir aux spectateurs, parce que moi j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir avec les comédiens, avec l'autre réalisateur Stéphane à le faire, et je pense qu'une fois qu'on a passé les 2 premiers épisodes, justement vous verrez, en découvrant le 3e, on rentre dans un équilibre entre les deux époques qui est vraiment jouissif jusqu'au bout, jusqu'à l'épisode 8, et donc allez-y, rentrez dans cette énergie-là de Cimetière Indien.
Merci Farid, on va écouter la bande-annonce et puis on va revenir juste après avec les comédiens justement qui vont venir nous rejoindre. On continue à parler de Cimetière Indien qui débarque ce soir, c'est la nouvelle création originale Canal+. Merci Farid.
Merci.
Il a été poignardé ici et il a été scalpé. Pourquoi est-ce qu'on scalpe quelqu'un?
Le scalp, c'est un rite. Celui qui a fait ça va recommencer, c'est sûr.
Qu'est-ce qui s'est passé en 1995?
Ma première enquête sur le terrain. Et certain, c'est que beaucoup de choses m'ont échappé.
Allez, de retour pour notre spécial Cimetière Indien, nouvelle création originale Canal+, qui débarque ce soir. Olivier Rabourdin nous a rejoint, qui joue le rôle de Jean. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Alors, c'est un personnage très mystérieux, on a planté un peu le décor, on se retrouve oscillant entre les années 2020 et les années 95. On va découvrir effectivement le passé de Jean, mêlé sur fond de guerre d'Algérie, avec 2 meurtres qui vont, on va dire, remêler et faire retrouver Lydia et Jean, qui s'était perdu de vue depuis de nombreuses années. Mais ce Jean, il en cache des secrets, j'ai l'impression, quand même, Olivier.
Mais oui, parce qu'il m'en a caché même à moi. Comme il fallait le temps d'écrire, moi j'ai eu, dans un premier temps, j'ai eu les 4 premiers épisodes, simplement. Et en fait, ça fait partie des choses qui m'ont décidé, c'est-à-dire qu'au bout de ces 4 épisodes, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de ce gars ? C'est-à-dire que la force de l'écriture, en fait, en ce qui concerne les personnages, c'est que, en tout cas en ce qui concerne Jean, c'est que il est mystérieux très très longtemps. On met très très longtemps à comprendre comment il en est arrivé en 2023 à avoir disparu, à être le principal suspect du meurtre de Mination, et qu'est-ce qui s'est passé, d'où il vient, quel est son rapport avec l'Algérie, etc. Voilà. Et j'ai adoré, en fait, moi-même, commencer à tourner en n'ayant pas les éléments pour avoir la réponse à ce mystère-là. Et donc, être obligé d'avancer comme ça à tâtons, mais c'était très excitant, en fait. Voilà.
Comme il y a 2 époques et qu'il y a 25 ans qui passent entre les deux, évidemment, à chaque fois, il y a un vieillissement, il y a plein de choses, du maquillage qui se passe. Comment on vit ça? Combien ça prend de temps? Comment on s'organise?
Eh ben, il faut mettre son réveil vers 1h30 du matin, et puis se préparer, voilà, prendre une douche, et puis arriver au maquillage vers 3h, et puis rester pendant 4-5 heures sur une chaise avec des gens qui touchent le visage. Et puis,
combien de temps pour vieillir Jean?
4 ou 5 heures, hein. Et c'est éprouvant physiquement, en réalité, ce moment-là. Après, c'est du boulot, il y avait cet enjeu de montrer en 2023 un personnage dont le corps était un peu plus fragile. Bon, ça tient à des petites choses, la manière de bouger. Évidemment, à 80 ans, on court pas vraiment, quoi. Voilà, donc il fallait trouver la manière de se déplacer. Et puis aussi la fragilité, du coup, ça rend un personnage plus craintif physiquement, alors que en 2023, on sent qu'il est plus assuré, quoi. Voilà.
Ce qui est intéressant, c'est de jouer un personnage sur 2 époques comme ça. Quand on lit le scénario et qu'on aussi, est-ce que c'est aussi facile? Parce que nous, à l'image, franchement, ce qui est facile, c'est qu'on voit l'image 95-2023 qu'on identifie très facilement grâce à la bande-son, grâce à la lumière, à l'image qui a été parfaitement travaillée par les réalisateurs. Mais est-ce que quand on lit le scénario, il se passe la même chose?
Oui, c'est assez clair, puisqu'on a les indications. On voit bien qu'on passe de 2023, c'est pas un problème. Voilà.
C'est ça qui a été intéressant pour le coup à jouer?
Bah, entre autres, oui, c'est troublant de se voir avec un visage de vieillard, quoi.
Alors justement, on va découvrir Jean plutôt à partir de la fin du premier épisode ce soir. Donc on va pas en dire plus, on va recevoir Mouna dans un instant, on va se requitter avec un petit extrait. Merci Olivier d'être passé nous voir en tout cas. Cimetière Indien, c'est ce soir sur Canal.
Eh ben, c'est moi qui vous remercie.
On a retrouvé l'ADN de votre ami dans la chambre de Mination.
Jean Bénéfroy.
Non, c'est pas possible. Je vais interroger ces suspects.
Il a 80 ans. Vous pensez vraiment qu'il aurait pu scalper quelqu'un?
Vous pensez toujours que Jean n'a rien à voir avec le meurtre de Mination?
On va terminer notre spécial cimetière indien avec l'héroïne de cette histoire, Mouna Swalem, qui nous rejoint. Bonjour Mouna.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors on va y suivre, on disait, Lydia sur plusieurs époques, des années 90 jusqu'aux années 2023. Qu'est-ce qui t'a plu déjà en premier, Mouna, dans cette histoire?
Bah, c'est justement les deux époques de ce personnage-là où c'était un défi assez fou. Et ce qui m'a plu, c'est le temps qui passe justement et qui n'existe pas dans la série. Je m'étais dit, oh, c'est quelque chose que je vais pouvoir intérioriser. Et du coup, ce travail-là, il est assez riche pour les comédiens, je trouve, parce que c'est de l'ordre psychologique, mais où on n'a pas à justifier ni trop démontrer, c'est juste avec nous. Donc moi, c'est là où j'ai pu vachement imaginer de choses, qu'est-ce qui se serait passé pendant ces 25 années-là, et le fait qu'elle soit aussi différente, mais Lydia contemporaine, quand elle revient sur son passé, finalement, on voit le lien dans sa vie entre ces deux époques-là. On comprend. Sans tout savoir, puisqu'il y a quand même pas mal de mystères, on arrive à s'imaginer ce qui aurait pu se passer.
On va décortiquer évidemment cette histoire pendant ces 8 épisodes. Hein. On disait qu'il y a beaucoup de mystères, il y a de l'enquête, il y a du thriller. Il y a une bande-son et une image hyper soignée aussi. Quand tu t'es vu la première fois, avec 25 ans de plus, et le travail des maquilleurs, qu'est-ce qu'on se dit?
Waouh. Surtout que ça a vachement évolué, le visage il s'est affiné de plus en plus. On a cherché pendant longtemps, que ce soit les cheveux. Au début, il était question d'avoir une perruque. Finalement, on s'est rendu compte que mes cheveux, moi, lissés, ce serait moins compliqué et il y avait quelque chose de plus naturel, de plus simple aussi pour moi. Donc, tant que c'était plus simple à porter, plus organique, ça marchait mieux. Au début, c'était hyper bizarre. Je savais pas comment j'allais me lancer là-dedans sans me sentir regardée, épiée, parce que je pense que c'était aussi très bizarre pour les autres. Mais en fait, finalement, ça a été très vite accepté, surtout que beaucoup de personnes dans l'équipe technique m'ont vu vieille et pas jeune. Donc en fait, à un moment, je revenais jeune et j'ai vu des gens hyper frustrés qui comprenaient pas ce qui s'était passé. Moi, c'est vraiment dans le parcours du personnage que j'ai pu me faire à ce masque-là, quoi. C'est vraiment en me concentrant sur une forme de physicalité que j'ai pu aussi oublier ce visage-là. Mais le travail de notre prothésiste est extraordinaire parce qu'il a vraiment essayé d'alléger la matière sur mon visage pour pouvoir déjà manger, parce que au début je pouvais pas trop rire, je pouvais pas manger de pain quand j'avais le masque, il faisait quand même presque 35-40 degrés. Donc avec des prothèses, toute la journée c'est compliqué, il y a rien qui respire, quoi. Donc c'était un sacré boulot collectif.
Alors, tout commence par le meurtre du maire hein, de Perran au tout début, dans une clinique. Et on va te retrouver, toi, basculer en 1995, à tes débuts en fait. En 2023, tout réussit un peu à ton personnage. Et on va découvrir en fait que tu as enquêté en 95 sur le meurtre d'un imam. Et ces deux affaires pourraient être liées, il y a bien des secrets. Tu as enquêté à l'époque avec un certain Jean, que tu vas tenter de retrouver en 2023, puisque lui aussi disparaît dans d'étranges circonstances. Et il recèle bien des secrets, comme on le disait avec Olivier il y a un instant.
Oui, tout à fait. Surtout que le rapport avec Jean, moi j'aime beaucoup ce duo-là. Parce qu'avec Olivier, on a eu cette envie d'adoucir un peu notre relation, qui à la base, à l'écriture, était beaucoup plus conflictuelle. Sauf qu'en fait, la Lydia 95, elle s'en prend tellement plein la gueule, pardon pour ce mot, mais par ce monde très masculin et par ce racisme ambiant, le racisme ambiant de cette région, par une politique de corruption assez énorme.
Il y a des mots très durs envers Lydia sur l'époque. Hein.
Extrêmement dur. On la renvoie au fait que ce soit une arabe, on la renvoie au fait que ce soit une femme. Et Jean, en fait, il a pas du tout ce rapport-là avec elle. Il voit sa jeunesse. Je pense que lui se voit aussi en elle. Il est dur, effectivement, pour la protéger. Mais nous, on avait envie d'adoucir cette relation presque à un mentor et à sa disciple, qui a un rapport hyper doux et bienveillant, malgré des conflits à des endroits où ils vont plus se comprendre. Mais c'est un peu comme dans les relations amoureuses ou familiales. C'est parfois, on se comprend pas tout à fait, mais on s'accepte. Donc ça, c'était très beau. Et pour moi, ça explique le besoin urgent de la Lydia contemporaine de retrouver ce genre qui, finalement, a été une figure pas paternelle, mais hyper importante dans sa vie, puisque même elle, en 2023, elle va un peu faire les choses à la manière de Jean, 95, donc pas dans les règles, sans demander la permission. Elle va un peu faire son enquête à elle-même, sans se référer ni à ses équipes, ni à elle-même, l'autorité au-dessus d'elle, ni aux enquêteurs de la région à qui elle ne doit rien.
C'est ce qu'on disait, c'est une série qui va se suivre vraiment sur les 8 fois 52 minutes. Alors je vous encourage déjà à découvrir les deux premiers. On a mis le paquet avec Farid, avec Olivier et avec toi Mouna. Merci infiniment d'avoir été avec nous. On termine juste avec tes projets. Est-ce que tu as des choses qui vont sortir au cinéma, théâtre, télévision qui arrivent?
Oui, le troisième film de Hafsi Ayerzi que je viens de finir de tourner, ainsi que le premier long métrage d'un réalisateur qui s'appelle Akira Ohata et que vous pourrez voir l'année prochaine.
Hafsi Ayerzi qui joue d'ailleurs aussi dans Cimetière Indien.
Tout à fait.
Et qu'on adore dans notre émission, qu'on a plaisir à retrouver régulièrement aussi sur ces projets qu'on suit. Merci beaucoup Mouna.
Merci.
À bientôt, c'était notre spécial Cimetière Indien. On rappelle que les deux premiers épisodes, c'est ce soir à 21h sur Canal+.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, notre coup de cœur télé cette semaine est consacré à Flashback à nouveau après les deux premiers épisodes que vous avez découverts la semaine dernière sur TF1. On va continuer à en parler avec les deux réalisateurs qui sont avec nous, Stéphane Cafiero et Vincent Jamin. Bonjour à tous les deux.
Salut.
Bonjour.
Merci d'être là. Deux des comédiens qui sont avec nous, Vanessa David et Julien Pestel. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Et puis le deuxième producteur, Anthony s'y est collé pour le lancement et Pierre Legier est avec nous. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Merci d'être là. Moi, j'ai adoré cette série et je vous avoue que les voyages dans le temps, ça me fascine. Est-ce que c'est ça qui vous a déjà, vous les comédiens, plu en premier justement de voyager un peu dans les années 90, mon cher Julien?
Alors moi, le voyage dans le temps, ça me plaît beaucoup aussi. Certains de mes films préférés, c'est par exemple Retour vers le futur ou même Les Visiteurs. Donc forcément, quand j'ai vu passer ce projet, j'ai pas pu dire non. Et c'est ça qui m'a donné envie de faire ce métier. C'est justement pour vivre des aventures extraordinaires, fantastiques, et en particulier voyager dans le temps.
C'est clair. Vanessa?
Oui, bah moi pareil. Hein. C'est vrai qu'en plus, dans cette époque, là où on voyage, les années 90, teintées encore un peu des années 80, franchement, c'est tout à fait une madeleine. C'est vraiment une période fantastique et qui va, je pense, rappeler plein de choses à plein de gens.
Alors Vanessa, on va présenter un peu le personnage du coup.
Alors, moi je joue le personnage d'Anouk. Anouk est donc la maman de l'héroïne, jouée par Constance Gay. Et on va la découvrir d'abord dans les années d'aujourd'hui, et puis après en 1994. Et effectivement, c'est un personnage qui est encore un peu enfermé dans son époque, qui a un horizon qui est assez pour l'instant restreint, et qui va s'élargir au fur et à mesure. C'est un personnage très touchant, vraiment touchant.
Et puis qu'on va voir évoluer au fur des années. Il y a eu beaucoup de travail aussi sur le maquillage, etc., pour passer les époques, mine de rien. Mais on va en parler avec les réalisateurs, parce que j'aimerais bien savoir un peu justement la difficulté que ça peut avoir en tant que réalisateur de traverser les époques comme ça et de passer d'une époque des fois à l'autre, comme au début de la série, par exemple, qu'on a vu la semaine dernière, passer 2024 à 95, par exemple. Vincent.
2024, c'est pas très compliqué puisqu'on voilà, on en est. 90 devient plus compliqué parce qu'il reste aujourd'hui peu de rues qui sont encore comme à l'époque. Et du coup, faut vraiment choisir ses axes et comment on va tourner. Et le reste, pouvoir le camoufler. Mais compte tenu des moyens, il fallait vraiment choisir, quoi.
Et il y a eu les bons choix, j'en suis sûr, qui ont été faits. C'est ce qu'on va voir à l'écran. Julien, le rôle, en quelques mots.
Alors moi, je joue le rôle de Benoît, qui est un jeune policier, qui est le bras droit de Jocelyn, interprété par Michael Youn. Je vais pas dire le bras armé, parce qu'il est pas bien méchant. Benoît, il ferait pas... Ferait pas mal à grand monde. C'est son complice dans les bêtises, en fait. Voilà. Et c'est aussi un personnage, un des personnages qui va avoir beaucoup de doutes sur la véritable identité d'Elsa.
C'est le premier qui va douter?
Pas le premier, mais en tous les cas, c'est celui qui va gratter, qui va lever le lièvre sans qu'on le croie forcément.
Pierre, Anthony nous disait le plaisir qu'il avait la semaine dernière à justement produire une série comme celle-ci, que lui qui est fan de Retour vers le futur, qui est fan de ce genre de choses avec des petits clins d'œil. Hein, dans les premiers épisodes, on voit une DeLorean par exemple. Toi, c'était quoi tes références?
Bah, je pense qu'il y a aussi une tradition du polar français, enfin sans remonter jusqu'à Melville, mais il y a Alain Corneau, Tavernier, et aussi dans ces années-là, il y avait des grands films de flics. On sait qu'il y a beaucoup de policiers, d'ailleurs, de vrais policiers qui sont devenus flics parce qu'ils ont vu le personnage, enfin les rôles de Belmondo, et il y a évidemment donc toutes ces références américaines, mais je pense que de replonger dans cet imaginaire-là de polar français, c'était un de nos plaisirs. Et pour la petite histoire, il y a un clin d'œil à Navarro dans le premier épisode, et c'est une série que nous on regardait quand on était gamin, enfin Commissaire Moulin, Julie Lescaut, et le papa de Vincent Jamin, ici présent, a réalisé des épisodes de Navarro. Donc il y a plein de jolies histoires à l'intérieur de cette histoire. Et il y a aussi une déclaration d'amour à toutes les séries et tous les films qu'on aimait quand on était gamin.
C'est vrai, c'est une déclaration d'amour à tout ça, ça c'est sûr et certain. Stéphane, comment ça va évoluer un petit peu? Alors je crois que la semaine prochaine, pour le final, il y a un énorme cliff qui nous laisse espérer en tout cas une saison 2. Ça, évidemment, on y croit tous et on espère vraiment, en tout cas quand on voit déjà le résultat des 6 premiers épisodes.
Ils vont continuer à travailler tous les deux et puis l'un va enquêter sur l'autre et l'autre va enquêter sur l'un. Ils vont chacun avoir un chassé-croisé entre eux. Est-ce qu'elle est vraiment canadienne? Donc Jocelyn va essayer de creuser le sillon et puis de l'autre côté, pareil, elle va essayer de trouver qui est le meurtrier de son père. Donc tous les deux vont faire des chassés croisés et au milieu, il y a des enquêtes à chaque fois à relever et ils vont essayer de travailler ensemble, ce qui n'est pas facile.
Il y a une scène particulière, Vanessa, pour toi, qui t'a marqué?
Le personnage d'Anouk, il a une vraie évolution. Il y a vraiment, c'est une femme qui va s'affranchir de plein de choses. D'ailleurs, ce qui est très mignon, c'est le rapport d'aller de sa fille, en fait, parce que sa fille va glisser des idées modernes dans la vie de sa mère, qui est pour l'instant assez traditionnelle, et que voilà, le personnage d'Anouk, il va évoluer au contact de sa fille adulte, et ça, effectivement, sans savoir qui elle est. Et là, si je vous dévoile la suite, voilà,
surtout pas. Il y a une scène qui m'a beaucoup touché dans les deux premiers épisodes. C'est la première scène où en fait Elsa se retrouve à elle, face à elle, petite. Très belle scène, ça.
Merci.
Quelle émotion justement qui a pu être ressentie justement entre la petite fille et puis Constance.
C'est-à-dire que en fait dans cette scène il y a énormément de choses. C'est-à-dire que Elsa, c'est la première fois qu'elle redécouvre sa maison. C'est la première fois qu'elle revoit sa maman. C'est la première fois qu'elle se revoit elle petite et la relation entre elle et son père.
Et puis on va terminer par Julien, la scène préférée.
Celle qui m'a marqué, c'était justement une des scènes d'introduction de l'épisode 1, où je me retrouve vieilli, avec 30 ans de plus. Donc c'était une séquence avec pas mal de maquillage, même Vanessa y a eu droit dans certaines séquences, et qui était, je crois, la seule scène non comique que j'ai à jouer dans cette série. D'ailleurs, Vincent m'a poussé dans mes retranchements pour que j'évite de faire trop de grimaces ou que je rajoute trop de bêtises. Et c'est peut-être ça qui m'a marqué, oui. De démarrer par quelque chose de non comique pour finalement après aller vers du comique.
Parce qu'évidemment, ce personnage amène pas mal de touches de comédie aussi. On vous invite à découvrir en tout cas la suite de Flashback. Ça sera donc cette semaine sur TF1 épisode 3 et 4. On a déjà hâte de voir une saison 2, moi je vous le dis. Donc mettez-vous vite au travail qu'on voit ça. Merci Pierre, merci Stéphane, merci Vincent, merci Julien et merci Vanessa d'être passé nous voir à nouveau cette semaine pour nous parler de cette série géniale. On va terminer tout de suite avec un extrait. Merci à vous tous.
Mais puis je vais devoir y aller. Est-ce que papa doit aller arrêter des méchants, très méchants qui mangent les petites filles?
Je t'aime. Tout le monde l'aimait, ton père, tu sais.
J'aurais tellement aimé le connaître plus.
C'est quoi ce bordel?
Comment tu t'appelles?
Je m'appelle Elsa.
Oh, Elsa, comme ta fille.
Moi aussi, je suis flic.
Et t'es flic où? À la brigade du rouge à lèvres?
Vous allez travailler tous les deux ensemble.
Vous allez pas me coller une fille maintenant? Faut être un flic, faut être un vrai bonhomme, tu vois? Ils font freluche.
En fait, papa, il est pas comme dans mes souvenirs.
Hey, tu fais quoi là?
La ceinture.
Non. Commence pas à farfouiller. C'est pourtant clair ce qui s'est passé.
C'est un crime passionnel.
Alors je t'arrête tout de suite, on dirait un féminicide.
Féminicide quoi?
On l'a soulevé, hein.
Deux époques, deux méthodes. Flashback, bientôt sur TF1.
Allez, ne bougez pas dans un instant. Frédéric Kering et Marie Louberry nous rejoignent. C'est notre spécial D'où Jésus. À tout de suite.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé. Reviens dans un instant. À tout de suite. Tous les bonus audio et vidéo de votre émission sur onécoutelatélé.com. Sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Chut, on écoute la télé.
Cette fille terrienne à regarder le soir sombrer, s'évanouir dans la Seine. Elle est encore mieux, cette fille, depuis qu'elle a croisé le tien. Et toi tu n'es pas bien mal comme animal. Je suis tombée en une minute pour ce regard bleu sale. Elle est encore mieux, cette fille, depuis qu'elle a creusé le tien. Ah, il y aurait dit au départ, ici c'est pas le Dolce Vita. On en fera ce qu'on pourra de cette ville. la prochaine. Elle en veut quand même la peine, cette vie croisée avec la tienne. On en fera ce qu'on pourra de cette vie-là. Je sais déjà qu'elle passera en un battement de paupières, ou si les deux claquements de doigts de la poussière à la poussière. Et c'est si fragile, ce bonheur subtil. On voudrait le garder sous verre, on l'asphyxie, et tant ça sert. Je voudrais figer.
Trouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé. Chute, on écoute la télé, le talk show radio. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur cinéma cette semaine est consacré à D'où Jésus qui sort mercredi dans les salles. On a cette occasion le réalisateur. On est à quasiment pour tous ses films, Frédéric Kering. Et merci d'être avec nous, Frédéric.
Bonjour, bonjour, merci de m'inviter.
Merci d'être là. Marie-Lou Berry qui est avec nous. Bonjour Marie-Lou, ça fait plaisir de te retrouver. Depuis quelques années, on s'était vu pour Joséphine Sarondi. Et puis je te promets aussi, évidemment, dans la région. Bonjour et merci d'être là.
Merci, bonjour.
Alors tous les deux, on va parler de cette comédie qui fait du bien et qui raconte l'histoire de Sœur Lucie. C'est un peu l'histoire d'une émancipation quand même, quelque part, hein, aussi, Frédéric. Où est venue l'idée?
Ah bah oui, complètement. C'est complètement l'histoire d'une émancipation. C'est l'histoire d'une femme qui se retrouve à une croisée de chemin comme ça et qui va se demander si elle a envie de poursuivre dans cette voie-là ou de s'arrêter. Puis c'est aussi l'histoire d'une femme qui va partir à la recherche de son premier amour. Mais tout ça sans jamais remettre en question sa foi.
On verra justement si les voies du Seigneur sont aussi impénétrables que ça. Justement, voilà, en remettant ou pas en cause cette foi, puisque elle va partir à la recherche de son amour de jeunesse 20 ans auparavant, où elle va voir qui se trouve recherché. On ne dit pas comment ni pourquoi, comme ça on va laisser le suspense. Mais en tout cas, elle va essayer de repartir un petit peu en arrière dans sa vie.
Et oui, mais surtout, c'est avant. Moi, je trouve que cette histoire d'amour, elle arrive presque dans un second temps, parce que son vrai choc, en fait, c'est son annonce de préménopause. Et c'est en sortant de ce rendez-vous biannuel chez le médecin que, sur un coup de tête, elle va monter dans un bus. Et évidemment, au moment où les portes se ferment, elle a immédiatement envie de faire demi-tour, mais c'est trop tard et elle va être obligée d'avancer et commence une remise en question de ses choix. Et je trouve que c'est vraiment ça le sujet du film, c'est la foi, la liberté, la quête de liberté et la remise en question. Et ça, c'est des sujets finalement que tout le monde aborde dans sa vie. Est-ce qu'on a fait les bons choix? Est-ce qu'on a pris les bons chemins?
Est-ce qu'on est sur la bonne direction?
Est-ce qu'on est sur la bonne direction? Et finalement, est-ce que la foi, quelle qu'elle soit, puisque encore une fois, je trouve que c'est pas un film sur la religion, et je trouve que la foi, elle appartient à tout le monde sans distinction. On n'a pas besoin d'être dans un lieu de culte pour avoir la foi. Ne serait-ce qu'enfant, on croit. Et quand on a de la chance, on continue. Et je trouve que c'est ça qui rend le personnage et le film si attachant, qui est si fédérateur finalement. C'est tous ces sujets-là qu'il aborde et qui ne sont pas liés au fait qu'elle soit bonne sœur.
Non, pas du tout, parce que justement, c'est pas du tout un film catholique, ou au contraire, c'est vraiment une comédie, et justement sur cette quête de sens qui pourrait être transposée à n'importe quel domaine finalement.
La comédie vient aussi du fait que ce petit personnage, Sœur Lucie, c'est un hibernatus, c'est-à-dire qu'elle sort de son couvent, elle ne connaît rien du monde d'aujourd'hui, elle a pas les codes, elle va être un peu perdue et déboussolée, elle a une forme de candeur comme ça, de rapport au monde, qui est complètement naïf avec les regards d'un enfant. C'est aussi quelque chose que je voulais raconter.
Alors, c'est vrai que Sœur Lucie se questionne beaucoup, mais la mère supérieure lui mène une vie. Mais c'est assez incroyable. Isabelle Nanty, elle est géniale.
Ah oui, elle est formidable. Elle mène une vie à toutes les sœurs du couvent.
Ça marche droit, quoi.
Bah oui.
Comment on appréhende ce personnage, justement, de Sœur Lucie? Comment tu t'es mis un peu dans ses baskets, Marie-Lou?
Assez facilement, finalement, en me laissant guider déjà par les visions et les envies de Frédéric, qui sont toujours très juste et très précise, ce qui est très très confortable pour une actrice. Et puis je dirais qu'en fait le vrai travail technique, s'il y en avait un, ça serait de m'approprier tous ces mots et toutes ces expressions que je ne dis jamais, qu'il fallait leur donner l'impression qu'elle les dit toujours, depuis toujours, comme d'où Jésus, oh mon Dieu, toutes les choses.
Les bondieuseries.
Aux patates, qui est vraiment devenue ma réplique culte du moment maintenant. Et voilà, donc ça c'était le travail un peu technique, mais finalement ça a vraiment pas été très compliqué de me mettre dans ces chaussures. Déjà elles étaient très confortables, ce qui est assez rare pour une actrice, et ça a été assez facile.
C'est vrai que Frédéric, t'as un rythme dans la comédie, dans l'écriture, dans tout ça, qu'on retrouve quasiment dans tous tes films, pour le coup.
Je sais pas si on le retrouve dans tous mes films, mais c'est vrai que de toute façon, déjà la comédie, il y a des codes, hein, il y a une grammaire particulière dans l'écriture, et après, je pense qu'il faut, c'est pas se tromper d'acteur. Et c'est vrai qu'avec Marie-Lou, que je trouve absolument époustouflante, enfin vraiment dans le film, elle est absolument merveilleuse.
C'est une évidence tout de suite?
Oui. Oui, immédiatement, oui, bien sûr. Oui. Et sur le plateau encore plus.
Oui. Le reste du casting? Isabelle Nanty, aussi Barbara Bolotner, enfin il y a un casting de dingue.
Bolotner, après moi j'ai toujours ma petite écurie, hein. Barbara Bolotner, Hervé Lassin, Anne Caillon, sont des gens que je retrouve toujours de film en film parce que j'aime bien l'idée comme ça de me construire une petite famille. Isabelle Nanty c'était ma prof au cours Florent, donc ça faisait plusieurs fois que je lui proposais de tourner dans mes films, mais la rencontre s'est pas faite parce qu'elle travaille beaucoup. Et là pour l'anecdote, quand je suis allé la voir et que je lui ai proposé le rôle de mère Henriette, je lui ai donné le scénario, elle l'a tout de suite mis dans son sac et elle m'a dit oui sans même avoir lu le scénario. Alors, elle l'a lu après, bien sûr, mais en tout cas, elle m'a donné sa réponse immédiatement. Oui.
Comment est venue l'idée, quand même, Frédéric, de ce sujet-là?
J'avais très envie de faire un road movie. J'avais très envie de raconter un personnage comme Hibernatus. Je suis un grand fan de Sister Act. Moi, j'ai aussi un sujet qui est à peu près dans presque tous mes films, qui est la vocation. C'est-à-dire, j'avais déjà un petit peu abordé ça dans la très très grande classe. Là, je parle aussi de vocation, c'est-à-dire à savoir si est-ce que quand on est fait pour quelque chose, même si la vie nous entraîne ailleurs, on est forcément rattrapé par cette chose-là parce que ça paraît comme une évidence. J'avais envie aussi de raconter une comédie romantique et c'est en fait un peu toutes ces idées-là comme un petit patchwork qui a fait que tout à coup s'est tissée cette toile de Sœur Lucie et de son histoire.
Comment pourrait la définir Sœur Lucie, justement vue par Marie-Lou Berry?
Bah, Sœur Lucie, c'est une femme très douce, pleine d'espoir, d'amour, de foi. Elle croit que tout va bien se passer. Elle croit que la vie va tourner comme... Elle croit en l'humanité. Elle croit... Et moi, cette croyance-là, elle me touche beaucoup. Et je trouve que c'est ça qui rend le film très fédérateur, quoi. Et qui la rend aussi très attachante. Et puis, la vie, elle, malgré toute cette vie qu'elle se prend en pleine face, justement, elle continue de croire que tout va bien se passer, quoi. Et ça... Ça m'a beaucoup plu. Et puis ce comique de situation qui moi que j'affectionne vraiment beaucoup au cinéma. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus chouette à jouer. Déjà parce qu'elle est très très bien écrite par Frédéric et puis parce que c'est toujours je trouve le plus payant un personnage qui est malmené par la situation, qui réagit, qui est en réaction plutôt que l'humour de vanne, de dialogue, même quand ça peut être très bien aussi. Hein, mais voilà, moi c'est ce que j'affectionne le plus.
On va écouter la bande-annonce, ça s'appelle D'où Jésus, ça sort mercredi dans les salles et on revient juste après avec Frédéric Kering et Marie-Lou Berry qui sont nos invités aujourd'hui, à tout de suite.
Il était une fois un couvent triste, très triste.
On pourrait y planter quelques fleurs, ce serait si joli, vous trouvez pas?
Bien sûr, on pourrait aussi y mettre une buvette, un barbecue, frais des brochettes et un groupe de gogo danseurs aussi pendant qu'on y est.
Nous sortons une fois tous les 2 ans pour voir le docteur.
Danger à 11h, on tourne la tête! Qu'est-ce qui vous est passé par la tête?
Mais je sais pas.
Trop la chance d'être en ville, Sœur Lucie, profitez!
D'où Jésus?
La gare est continue, c'est par là.
Elle va prendre le TER! Oh,
8 312 euros.
Tout ça?
C'est votre argent.
Bon, par contre, si vous achetez rien.
Si.
Vous êtes sûr?
Oh, patate!
Allez, c'est notre spécial D'où Jésus, le film sort mercredi au cinéma. Marie-Lou, est-ce qu'il y a une scène particulière qui a été marquante? Il y a des scènes sous l'eau, il y a des scènes de course-poursuite, il y a plein de scènes d'action aussi. Est-ce que ça, c'est jouissif à jouer?
Ah si, j'ai complètement oublié, mais la scène de course-poursuite en bagnole, j'étais tellement contente parce que faut savoir que j'ai 42 ans et j'ai mon permis depuis 3 ans. Et je suis d'ailleurs la première femme du côté de ma mère, depuis que la voiture existe, à avoir le permis. Et donc, enfin, j'ai pu dire au dire de prod du tournage, j'ai mon permis, je peux conduire la voiture. D'ailleurs, ils étaient en stress de ouf parce que au début, bon bah j'ai fait le chemin, c'est une course poursuite, donc on le fait dans un petit village en plus, bon, sur une ligne droite et tout. Et Fred me dit non, faut qu'on aille un peu plus vite. Et après, ils étaient tous là en stress, bien non, mais qu'est-ce qu'elle fait, Marie-Lou là? Attends, je me rappelle de Lionel, le régisseur, qui est au toki. Bon, on arrête, hein, Marie-Lou, tu ralentis. Et pour le coup, ça aide énormément, parce que être en voiture, ce qu'on appelle une voiture traveling, c'est-à-dire la voiture posée sur un truc qui l'attire ou qui est poussé ou qui l'attire par une autre voiture, et rouler à 30 à l'heure en faisant « Mais qu'est-ce qui t'a fait ? Mais enfin !» Ça, c'est super dur, parce que c'est ce qu'il y a de plus dur quand on joue, c'est de faire semblant. Voilà. Donc quand on est en train de conduire à presque 100 à l'heure dans des petites routes, en sécurité, parce qu'on croit qu'on est en sécurité, même si on l'est pas toujours, mais en tout cas avec un maximum de sécurité, la scène, elle sort toute seule, quoi. Elle est, ça, c'était un très très gros kiff, vraiment.
On retrouve quelque chose de très cartoonesque dans tes films, Frédéric. Justement, est-ce que toi, il y a aussi des scènes que t'as voulu, tourner un peu de cette façon-là, et comment? Même si celui-là est moins cartoonesque que les autres.
Ouais, celui-là est moins cartoonesque que les autres. Je dois dire que j'ai pas tellement là.
Il y a quelques petits moments quand même qui font penser et qu'on retrouve ta patte.
Où tu te prends des portes ou des choses comme ça, c'est vrai, mais c'est moins. On est moins dans la comédie un peu burlesque et cartoon comme j'ai pu l'être dans Sale Gosse ou dans Marum, quoi. Là, il y a quelque chose.
Marum, c'était le pire, je crois.
Quelque chose de plus sincère et de plus. Mais c'est vrai que tu te prends des portes. C'est vrai que tu te fais arroser. Oh, c'est un peu cartoonesque quand même quand t'es dans la station-service, c'est un peu... Ouais.
C'est quoi la scène que tu redoutais le plus, toi, peut-être?
Moi, je redoute aucune séquence. L'idée, c'est de rentrer dans un film et de rien redouter du tout, parce que sinon, et de travailler avant, justement, pour être prêt.
Celle que t'attendais le plus, alors?
C'est pas redouter ou attendre, c'est juste espérer que ce soit à la hauteur de ses ambitions et de ses rêves et de ce qu'on attendait, de ce qu'on avait envie, quoi. C'est ça, quoi. Mais moi, je pense qu'on a une chance inouïe quand on fait du cinéma. Enfin, c'est qu'on peut travailler en amont et qu'on peut se préparer. Donc, à partir de ce moment-là, oui, effectivement, on rêve qu'elle se promène sous un grand ciel bleu. Bon, bah, il flotte. Voilà, on n'y peut rien.
On s'adapte.
On s'adapte. Mais bon, dans le fond, ça change pas tant que ça l'histoire.
C'est difficile de toujours rentrer dans des, on va dire, dans des tournages toujours plus rapides aujourd'hui. C'est combien de jours, là, d'où Jésus?
Alors, je devrais pas dire ça, faut pas que mon producteur il entende, mais je dois dire que, franchement, c'était assez confortable, même si c'est jamais confortable, parce qu'il faut toujours qu'on se dépêche, et qu'on n'est jamais à l'abri d'une inconvenue ou d'un souci. Là, on avait 2 mois de tournage.
Une quarantaine de jours,
je dois dire que c'était pas on est resté. Si, il y avait quelques extérieurs à cause de la pluie, effectivement, on a eu quelques petits soucis de sinistre, mais franchement, c'était pas non plus catastrophique. Qu'est-ce que t'en penses, Marie-Lou?
Non, moi, j'ai trouvé ça... En fait, le truc, c'est qu'il y a énormément de décors sur ce film. Donc, c'est ça qui justifie, je pense, aussi les 2 mois de tournage. C'est que dans la même journée, on se déplaçait 3 fois. Et déplacer 50 personnes 3 fois, et des camions, et de la technique, et du matos, ça a une force d'inertie. Et du coup, ça a permis, je trouve, de pouvoir avoir le temps de faire les séquences, quoi, et de les faire bien, et de s'installer bien, de faire une belle lumière... voilà, je trouve que ça, pour le coup, on n'a pas rogné sur la qualité, et c'est ça qui était chouette. Moi, je trouve que la qualité, elle est là à tous les points de vue, que ce soit au niveau de l'image, des décors, des costumes, de la mise en scène, de la réalisation, des acteurs, et ça, c'est très chouette, ça.
Je vais m'adresser plus à la réalisatrice maintenant, Marie-Lou. Est-ce que, justement, quand on a cette casquette aussi et qu'on réalise des films, est-ce qu'on est plus rapide dans la compréhension de ce que peut demander, justement, le réalisateur? Est-ce qu'on est, alors je vais pas dire plus à l'écoute, mais est-ce qu'on comprend plus vite? Est-ce qu'on est plus efficace? Est-ce que ça aide, tout simplement, d'avoir cette expérience en plus?
Je sais pas, parce qu'il y a des acteurs ou des actrices qui en ont rien à faire et sont tout aussi rapides, je pense. Mais en tout cas, pour le coup, oui, moi, je comprends. C'est-à-dire que je comprends tous les enjeux d'une séquence, aussi bien technique que au niveau de l'aspect de la production ou de choses comme ça. Je comprends quand on me dit qu'il faut courir pour aller sur le plateau parce que le nuage arrive dans 1 minute et que quand Patrick Comtesse, le chef électro, arrive avec son petit œilleton pour regarder les nuages pour dire « Ah bah celui-là, il arrive dans 1 minute », on a 60 secondes pour tourner la séquence. Et si on la tourne pas, il faut attendre un quart d'heure après. Voilà. Et ça, pour le coup, c'est des choses que j'entends. Peut-être que les acteurs peuvent se dire, oh, bah, ça va, une minute, on n'est pas une minute près. Bah, si, des fois, on est une minute près. 30 secondes près. Ouais, 30 secondes près. Et surtout quand on tourne en extérieur, dans des endroits où le climat change très vite, où on peut passer d'un ciel bleu à un temps de nuages gris. Et voilà, donc je pense que ça, les enjeux, je les comprends vite et je comprends tous les enjeux, les aspects du tournage. Mais il y a des acteurs qui n'ont pas du tout ni l'envie ni le besoin de le comprendre et qui sont tout aussi efficaces.
C'est quoi que tu préfères justement, réaliser ou jouer aujourd'hui? Est-ce que tu as une préférence ou alors il y a autant de plaisir dans l'un que dans l'autre?
Moi, j'aime beaucoup les deux. Moi, je me vois pas réaliser un film où je joue pas. Donc, réaliser, c'est pour moi l'extension, une prolongation de mon métier de comédienne. Et au contraire, quand je suis sur un tournage, je prends beaucoup de plaisir à pas réaliser quand je suis là en tant qu'actrice, parce que c'est du confort, quoi. Voilà. Moi, je sais à quel point c'est épuisant de réaliser, parce que on a deux journées, hein, clairement. On a la journée normale, puis le midi, il faut soit courir aller faire un repérage parce qu'il y a un décor qui a sauté, soit déjeuner en parlant du planning de je sais pas quoi, ou de voir des essais d'acteurs, ou de voilà, donc où le soir déjà on est claqué et puis on doit préparer un truc, aller voir l'autre décor installé, aller voir les axes parce que finalement il y a un truc qui a changé, le décor est plus le même. Enfin voilà, donc non, au contraire, moi je prends beaucoup de plaisir à arriver le matin à l'heure et repartir dès qu'on dit fin de journée, coupé, merci beaucoup, à demain.
Bon, en tout cas, autant de plaisir. Est-ce qu'il y a des projets justement pour toi en tant que réalisatrice, ou quels sont les projets en tant que comédienne qui arrivent?
En tant que réalisatrice, là, j'écris. Je suis en train d'écrire, donc on verra ce que ça donnera. On croise les doigts, mais bon, c'est toujours long. Donc, ça sera pas avant un an, je pense, un an et demi pour la sortie, deux ans, voire. Et en tant qu'actrice, pour l'instant, moi, je suis en train de. Je vais sûrement jouer au théâtre en janvier prochain. Tout ça n'est pas sûr, évidemment. Voilà. Et puis, moi, j'aime pas déjà faire beaucoup de choses en même temps. Et parce que j'aime bien faire les choses bien. Et puis, je suis pas ce genre de personne. Il y a des gens qui sont très doués pour ça, mais pas moi. Et puis, j'aime bien choisir avec beaucoup de soin mes projets, quoi. Donc, je suis pas forcément dans la quantité, sans pour autant dire que les gens qui font beaucoup font pas dans la qualité. Mais voilà, voilà, donc non, pour l'instant, j'attends de jouer au théâtre. J'ai très envie de jouer au théâtre et puis j'écris.
Marianne, pas de saison 3?
Non, ça y est, là, ça fait combien? Un an, deux ans que ça a été. Ouais, moi j'ai adoré jouer ce personnage. C'était vraiment un personnage aussi très solaire que j'ai adoré et qui a super bien fonctionné. Après, voilà, il y a plein de raisons que je ne vais pas évoquer ici, mais non, j'ai beaucoup aimé ce personnage.
Ça fait des belles années chargées, et que je te promets en parallèle. C'était Patrice. Frédéric, on termine par tes projets aussi. On imagine que là, le film, dans deux jours, sort au cinéma. Donc, j'imagine peut-être un peu comment tu te sens. Mais est-ce que tu penses déjà à la suite, du coup?
À la suite du film?
Non, pas à la suite forcément du film, mais à la suite de ce que tu vas nous proposer.
Oui, je suis en train d'écrire, oui. Comme Marie-Lou, j'écris.
Parce que c'est tous les deux ans, quasiment, hein, que tu nous en proposes un, tous les un an et demi, deux ans, quasiment.
Oui, j'ai cette chance-là pour l'instant. Oui. J'espère que ça va continuer, on verra. Mais non, là, je suis en train d'écrire. Voilà.
Continue à nous faire rire, en tout cas, avec ces beaux projets. Merci infiniment à tous les deux d'être venus nous voir. D'où Jésus, c'est mercredi au cinéma, on ne le rate pas. Et on va se requitter avec un petit extrait. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous.
Ah
bah vas-y.
Alors, je ne vends pas de pilules qui font maigrir. Je sais qu'on voit ma tête avec ma voix qui vantent les mérites d'une pilule miracle. Mais alors, les miracles, c'est qu'au cinéma et avec Frédéric Kiering. Moi, je vends pas de pilules qui font maigrir. Et aussi, si vous avez envie de prolonger le plaisir du film une fois que vous l'aurez vu, moi, sur mon Instagram, j'ai fait tout le making-of du film parce qu'en tant que spectatrice, je suis très, très nostalgique des making-of. Alors du coup, j'ai filmé tous les coulisses dans une petite story à la une. Voilà.
C'est génial. Oui, ça manque, hein, c'est vrai, hein, dans les formats DVD, etc. On aimait bien voir les making-of, les bêtisiers, etc. Et ça manque un peu parfois aujourd'hui. Donc voilà, quand vous aurez été voir le film, vous aurez qu'à aller sur l'Instagram de Marie-Lou Berry pour découvrir un peu le making-of, justement, de D'où Jésus. Merci à tous les deux.
Merci.
Une de mes brebis s'est égarée et je compte bien la ramener à la bergerie. Bonsoir, ma fille. Nous sommes des sœurs de Sœur Lucie, votre sœur.
Bonsoir, madame.
Ça, ma sœur.
Ready woman!
Tu te trimbales avec 7000 euros en cash et les préservatifs. Mais t'es religieuse?
Oui, c'est exactement ça.
Sœur Lucie, elle est où?
J'ai pas pensé à leur demander.
Ah, oh, non, mais alors là, Seigneur, excusez-moi, mais elle est complètement con.
Oh, Seigneur, dites-moi ce que j'ai fait pour mériter tout ça.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Allez, lundi prochain dans Chute, on écoute la télé. On aura le plaisir de recevoir Michel Leclerc pour le mélange des genres qui sera accompagné de Mel Rabedia et Léa Drucker. On aura le plaisir de recevoir également Régis Varnier. Le réalisateur d'Indochine revient pour son tout nouveau film La Réparation. Il sera notre invité exceptionnel. Et puis, on vous invite à découvrir toutes les coulisses du tournage de notre émission qui sera diffusée le 28 avril, spécial Tropique Criminel qu'on est en train de tourner en Martinique actuellement. Vous pouvez suivre toutes nos stories et toutes les images actuellement sur nos réseaux sociaux. Page Facebook et Instagram, Chute, on écoute la télé.
Le rendez-vous des stars, c'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio.
Allez, je vous invite à rester connecté avec nous. N'oubliez pas que vous avez également le podcast de la quotidienne tous les jours à midi sur notre site onécoutelatélé.com et que chaque lundi à 20h, on vous donne rendez-vous évidemment pour le podcast de l'hebdo de Chute, on écoute la télé. Vous pouvez rester également connecté avec nous tout au long de la semaine sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé et télécharger également nos applications pour iPhone et Android. Chute, on écoute la télé. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de Chute, on écoute la télé, l'hebdo. À lundi prochain, 20h.
Chute, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier en Nouvelle-Aquitaine. Des glaces sans ajout d'arômes, sans colorants, sans conservateurs. Découvrez les sorbets, crèmes glacées, cônes artisanaux et la nouvelle gamme de peaux gourmands Jade et Ali, disponibles dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Et retrouvez les boutiques, les ateliers de Langélis à Pontaillac, La Rochelle, La Cotinière et Bordeaux. Chut, on écoute la télé avec vos boutiques de prêt-à-porter Speak en Nouvelle-Aquitaine. Speak, c'est la mode homme, femme, des pépites chaque semaine pour tous les budgets. Mais Speak, c'est aussi un corner seconde vie pour les vêtements que vous ne portez plus. Alors n'hésitez pas. Plus de 15 boutiques Speak vous attendent en Nouvelle-Aquitaine. Retrouvez toutes les adresses et la boutique en ligne sur speak.fr.